même si vous n'étiez pas avec nous hier après-midi, si vous n'avez pas pu nous rejoindre, vous savez certainement que l'histoire de la chrétienté est remplie d'événements terribles où des gens se nommant chrétiens, des gens se disant chrétiens, ont maltraité, ont persécuté, voire torturé et tué d'autres chrétiens qu'ils ne pensaient pas comme eux. Alors ces chrétiens persécuteurs, la plupart du temps alliés au pouvoir, agissaient selon leurs pensées. Et la plupart du temps sans se préoccuper de la parole de Dieu. Mais à certaines époques, peut-être plus récentes, des persécutions, parfois même terribles, ont eu lieu, cette fois sur la base de désaccords doctrinaux, des désaccords de théologie, sur la base de différences de lecture de la Bible, des différences d'interprétation de la Bible. Donc des gens connaissant la parole de Dieu cette fois-là. Et aujourd'hui encore, au sein de la chrétienté, et parmi les évangéliques même, il y a des conflits à cause d'interprétations différentes de la parole de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous montrer comment le péché en nous, et je ne dis pas en eux, je dis en nous tous, et comment l'influence de Satan, qu'elle soit directe ou indirecte, par le monde, ont conduit dans le passé beaucoup de personnes, se nommant chrétiens, à mal interpréter la parole de Dieu. Et comment aussi le fait que nous sommes pécheurs et l'influence de Satan, comme je disais, directe ou indirecte, nous conduisent aujourd'hui parfois à mal interpréter les Écritures et à créer ainsi toutes sortes de conflits au sein de la chrétienté. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un préambule, un petit rappel sur la parole de Dieu. La Bible, nous l'appelons bien sûr la parole de Dieu. Nous savons et nous disons qu'elle est inspirée de façon verbale, donc chaque mot de la parole dans les originaux est inspiré. Elle est inspirée de façon plénière, c'est-à-dire de A à Z, du début jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et par conséquent, étant inspirée verbalement et de façon plénière, elle est inhérente, elle est infaillible. Ce n'est pas un homme qui est infaillible, c'est la parole inspirée par Dieu. Néanmoins, vous savez, certainement comme moi, qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible, des passages qui sont difficiles à comprendre. Et d'ailleurs, en 2 Pierre chapitre 3, au verset 15 et 16, il est dit, donc, poussé par le Saint-Esprit, Pierre parle et nous dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, la parole de Dieu elle-même nous fait savoir, ne nous cache pas, qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre pour les enfants de Dieu. Alors, à plus forte raison, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, et à plus forte raison pour ceux qui ne liraient même pas les Écritures. C'est clair qu'il y a des choses difficiles à comprendre en ce qui concerne Dieu, sa création. Et si nous n'avons pas une révélation, ce qui est là, ici, dans la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas, nous ne nous instruisons pas auprès de Dieu, auprès de sa révélation, il sera difficile d'y voir clair. Et donc, puisque la parole de Dieu est inspirée de Dieu, eh bien, il n'y a pas de multiples interprétations possibles de la parole de Dieu. De Pierre aussi, chapitre 1er, verset 20-21, nous dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si bien que, ici, le mot particulière, qui est le mot grec « idios », qui a donné, par exemple, le mot français « idiome », hein, c'est particularité d'une langue pour exprimer quelque chose, les particularités d'un groupe ethnique à exprimer quelque chose d'une certaine façon. Ce mot « particulier », cet adjectif, nous indique comment l'interprétation doit être, ou plutôt ne doit pas être, d'une façon particulière, d'une façon propre à une personne. Comme il y a un seul Saint-Esprit, il y a une seule interprétation possible, et c'est poussé par le Saint-Esprit. Et si bien que, dans la chrétienté, si les chrétiens sont fidèles, il ne devrait y avoir, au sein de la chrétienté, parmi les chrétiens, qu'une seule interprétation de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas ce que l'on a vu dans le passé, ce que l'on voit qui s'est produit dans le passé, et bien entendu, ça n'est pas non plus ce que nous voyons, nous constatons aujourd'hui, parmi ne serait-ce que les évangéliques. Alors je voudrais vous montrer ce matin deux règles que Dieu nous a données pour interpréter correctement sa parole, que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit qui a inspiré sa parole. Et je voudrais vous rappeler une chose qui est très importante. Si Dieu nous a donné ces deux règles et certainement d'autres, mais je voudrais m'attacher à simplement deux règles qu'il nous a fait connaître pour interpréter sa parole. Dieu nous laisse libre d'obéir à ses règles ou de ne pas obéir à ses règles. Et comme vous le savez, si vous êtes un lecteur attentif de la parole de Dieu, si Dieu nous laisse libre d'obéir ou de désobéir, il ne nous laisse jamais libre des conséquences de nos choix. Alors comme je disais tout à l'heure, nous sommes pécheurs, tous. Nous sommes donc influençables par Satan, soit directement, lui qui est le père du mensonge, soit indirectement par le fait qu'il est le prince de ce monde et il utilise le monde pour nous influencer, nous égarer. Je voudrais que nous voyons un passage ensemble qui montre justement ce travail de Satan, cette influence de Satan sur nous, et ce que le Seigneur nous enseigne dans un passage que vous connaissez très bien, qui est au début des évangiles, en Matthieu chapitre 4. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 4, et nous allons lire les 7 premiers versets. Alors vous avez reconnu que ce passage concerne la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, et on aurait pu ne pas avoir ce passage dans les Écritures, parce qu'on pourrait dire, finalement, la tentation du Seigneur Jésus-Christ ne nous concerne pas directement. Mais le Saint-Esprit a voulu que nous sachions ce qui s'est passé entre Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes, et le Seigneur Jésus. Et c'est pour une raison très précise qu'il a voulu que ce soit consigné dans sa parole et que nous puissions lire ces choses. Alors lisons les 7 premiers versets de Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » J'appelle cette tentation un défi très pratique. Tu as faim, change ces pierres en pain et mange. C'est très pratique, c'est pour quasiment la vie quotidienne, on pourrait dire. Verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous connaissez certainement très bien ce verset. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple pour une deuxième tentation et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et là, nous avons une deuxième tentation du diable, qui cette fois-là, je l'appellerai, si vous permettez, un défi biblique, un défi spirituel. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Je vais m'arrêter là pour cette lecture, dans ce passage. Et je vous disais que à la première tentation, quand le diable dit à Jésus, notre Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, il s'agit en fait d'un défi extrêmement pratique, du genre ce qu'on peut entendre dans les cours de récréation quelquefois, dans les écoles, des enfants qui vont dire, un enfant qui dit à un autre enfant, bah, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de faire ça, allez chiche que tu vas le faire. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Et bien souvent, les enfants, quelquefois, font des folies comme ça. Ils relèvent le défi. Quelquefois, les ados font des choix assez fous, hein, de relever un tel défi. Et parfois, nous-mêmes, adultes, sans trop réfléchir, nous nous lançons dans des défis qui sont a posteriori presque ridicules. Mais Jésus répond quelque chose d'autre. Il répond, malgré 40 jours de jeûne, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur Jésus, par là, nous montre, et le Saint-Esprit qui veut que nous sachions ces choses, nous montre que nos décisions devraient être non pas des réponses du tac au tac à un défi, aussi intelligent ou fou soit-il, mais plutôt fondés sur les Écritures, ou même guidés par les principes bibliques, nourris par des principes bibliques, dans ce moment de, j'allais dire, de détresse, de faim, après 40 jours de jeûne, le Seigneur Jésus, avec certainement un certain calme, s'en réfère aux Écritures, et sa pensée, c'est « il est écrit ». Et c'est sa réponse. Peut-être vous direz, bon, c'est pas très facile. Hein. C'est vrai, c'est pas très facile pour nous pécheurs. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous cherchons à obéir à Dieu, si nous cherchons à nous soumettre au Saint-Esprit, à nous laisser conduire par lui, cela devrait être, je ne sais pas si je pourrais dire de plus en plus facile, mais cela devrait devenir de plus en plus, ça devrait faire partie de plus en plus de notre nouvelle nature que de nous référer aux Écritures. Souvent, des personnes qui viennent dans nos assemblées me disent, vous savez, c'est pas facile, hein, j'y pense pas. Et dans ce cas, j'invite ces personnes, je leur dis, mais posez-vous la question, est-ce que j'obéis, est-ce que je cherche à obéir au Saint-Esprit, est-ce que chaque jour, je cherche à entendre sa voix? Nous savons que le plus souvent, sa voix, c'est un murmure plus qu'autre chose. Ou même parfois, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Si jamais la pensée de revenir aux Écritures et me poser la question, mais qu'est-il écrit dans les Écritures? Ou me souvenir en verset et résister face à la tentation avec l'expression « il est écrit », si elle ne vient pas à mon esprit, on devrait se poser des questions. Mais je n'irai pas trop loin ici. Je voudrais en venir à la deuxième tentation, celle que j'ai appelée une tentation, enfin un défi biblique, puisque vous avez remarqué, vous savez comme moi, que le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, hein, sur le pinacle du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Satan connaît Jésus depuis près de 6000 ans. Il entend, il connaît les Écritures qui sont dans les lieux célestes. Il entend les Écritures lues. Et c'est certain qu'il n'aime pas cela, mais il connaît ces choses. Et il est même capable de citer le psaume 91 précisément Et Jésus fait la même réponse que la première tentation, il est aussi écrit. N'est-ce pas ? La même réponse. Jésus fait-il la même réponse ? Permettez-moi de vous dire, Jésus ne fait pas la même réponse. La différence est petite, mais en fait elle est grande. Il y a ici un mot important que Jésus ajoute, et ce mot est très simple, c'est le mot « aussi ». Dans cette deuxième tentation, face à cette deuxième tentation, Jésus répondit, non pas « il est écrit », mais « il est aussi écrit ». Sous-entendant, « il est aussi écrit ailleurs ». Il y a beaucoup de mots importants dans la parole de Dieu. Si vous prenez l'évangile de Marc, le mot « aussitôt » qui montre comment le Seigneur Jésus, avec cette facette de l'évangile de Marc, qui le présente comme le serviteur obéissant, qui obéit aussitôt, 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 constamment. C'est un mot clé de l'évangile de Marc. Si vous lisez le livre des Proverbes, par exemple, le livre de la sagesse de tous les jours, 31 proverbes, 31 jours au maximum dans le mois, vous lisez un proverbe par jour, vous serez abondamment nourri, vous verrez que le mot « mais », parmi tant d'autres, mais le mot « mais » qui exprime un contraste, est extrêmement important dans la Bible, non seulement dans le livre des Proverbes, mais dans toute la parole de Dieu. Ou le mot « si », dans les premiers chapitres des Proverbes, « si, 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 alors ». C'est des mots tout simples, mais qui ont un rôle extrêmement important. Il y a le mot aussi « afin que », qui exprime un but, qui nous permet de voir où est-ce que l'auteur veut nous amener. Ici, Jésus utilise un mot tout simple, « aussi », pour répondre à Satan, à sa deuxième tentation, en disant « il est aussi écrit ». Pourquoi ? Parce que Satan fait un mauvais usage du psaume 91. Il en donne une mauvaise interprétation. Et Jésus éclaire le sens du psaume 91 avec Deutéronome, chapitre 6, verset 16, en disant « il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus ici dit à Satan, ou rappelle à Satan, et puisque c'est écrit dans la parole de Dieu, Jésus nous enseigne par là même que l'on doit comprendre, que l'on doit expliquer et même interpréter la parole de Dieu, les passages de la parole de Dieu, avec le reste de la parole de Dieu. Psaume 91 fait partie de la parole de Dieu. Mais Satan interprète mal le psaume 91 et utilise le psaume 91, une interprétation particulière, pour faire sauter Jésus du haut du temple et pour se débarrasser de lui. Mais Jésus met un point d'honneur à lui dire et à nous dire que le psaume 91 doit être interprété à la lumière du reste de la Bible et notamment à la lumière de Deutéronome chapitre 6, verset 16. Ici, dans ce passage, le Saint-Esprit nous donne une règle d'interprétation de la parole de Dieu. C'est une règle divine que l'on appelle, parmi ceux qui aiment bien à étudier la théologie, qui est une bonne chose, on appelle ça l'analogie de la foi. Puisque la Bible est inspirée de Dieu, elle est homogène, elle est cohérente, elle ne peut pas se contredire, un passage ne va pas contredire un autre. Il peut y avoir, en apparence, des choses qui sembleraient, j'utilise un conditionnel, contradictoire, un peu opposé. La Bible étant inspirée de Dieu, est cohérente, il n'y a pas de contradiction. Aucun passage ne peut être contredit par un autre, c'est-à-dire que tout passage s'interprète à la lumière du reste de la Bible, se comprend à la lumière des autres passages. Et par conséquent, lorsqu'on prend un passage isolément, comme Satan a fait ici, avec le psaume 91, il y a un danger d'erreur à ne pas le regarder à la lumière du reste des Écritures. Et donc, par ce passage, le Seigneur Jésus nous enseigne une chose extrêmement importante, et le Saint-Esprit, en fait, nous enseigne une chose extrêmement importante, c'est que tout passage des Écritures doit être interprété à la lumière du reste de la parole de Dieu. On ne peut pas interpréter isolément un passage de la parole. Aujourd'hui, comme tout au long des 2000 ans de l'histoire de la chrétienté, Satan pousse les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, à interpréter des versets de la parole de Dieu ou des passages de la parole de Dieu isolément, à ne pas les interpréter à la lumière du reste de la parole. Et c'est facile, parce que quand on lit, vous savez, la Bible est un livre assez important. Pour la plupart des chrétiens, il faut une année pour lire la parole de Dieu. D'une certaine manière, on pourrait dire, c'est fastidieux. Il est facile, il est naturel de prendre un passage et de l'interpréter comme cela, sans le considérer dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et Satan pousse les hommes à cela, à sortir un verset de son contexte et l'interpréter isolément. Et sa tâche est d'autant plus aisée qu'aujourd'hui, vous savez, avec la télévision, avec les jeux vidéo, avec beaucoup d'outils, d'autres technologies, avec les SMS, etc., beaucoup de nos compatriotes, même peut-être d'entre nous, on dit, on n'aime pas trop lire, hein, on n'a pas trop envie de lire. Est-ce que vous avez un film plutôt, des images ou un DVD de la parole de Dieu? Mais le Seigneur Jésus a choisi, c'est peut-être un test de sélection aussi, a choisi de nous donner sa parole écrite et non pas en image animée. Et celui qui ne prend pas la peine, comme nous le voyons hier dans l'histoire de la chrétienté, de lire ce que la parole de Dieu dit dans son ensemble, il y a un danger d'erreur qui est extrêmement important. Donc je vous laisse déjà ce premier, ou je vous laisse à votre méditation ce premier, cette première règle d'interprétation, règle divine, donnée donc par la parole sur l'interprétation de la parole de Dieu. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus tard. Je voudrais vous encourager maintenant à ouvrir la parole, à tourner à la fin des évangiles, en Jean chapitre 21. Nous allons voir une deuxième règle qui est donnée par Dieu. Ce qui est assez remarquable pour moi, c'est de voir que cette première règle d'interprétation que je viens de vous montrer est en Matthieu chapitre 4, donc au début des évangiles, et cette, la deuxième règle que je vais vous présenter, elle est en Jean chapitre 21, à dernier chapitre des évangiles. Et là, nous allons voir comment l'influence de nos pensées, chacun de nous, de nos sentiments, de nos intuitions, de nos raisonnements, peuvent influencer sur notre compréhension et notre interprétation de la parole et nous amener dans l'erreur. Est-ce que le Seigneur en dit ? Jean chapitre 21, nous allons lire du verset 18 au verset 23. Nous sommes après la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes visiblement en Galilée. Et c'est dans ce passage où Jésus parle à Pierre de son triple reniement. Et au verset 18, juste après la conversation qu'il a avec Pierre, Jésus dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, donc Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? toi, suis-moi. C'est une parole un peu énigmatique, un peu sibylline, pas très claire que le Seigneur Jésus répond à Pierre en lui disant donc, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Jésus a dit quelque chose d'un peu obscur à Pierre, qui peut être sujet à diverses interprétations. Et d'ailleurs, les disciples, en entendant Jésus parler, ont souvent, si vous vous souvenez des évangiles, ont souvent été étonnés, voire perplexes, avec certaines paroles du Seigneur, et n'osaient pas toujours lui poser des questions. Je ne sais pas si vous vous êtes imaginé dans la présence du Seigneur Jésus, très près, Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et souvent, les disciples n'osaient pas poser des questions. D'ailleurs, dans ce même chapitre, au verset 12, il est dit, Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. On a encore un exemple juste là de ce que les disciples n'osaient pas. Et alors, dans ce passage, les disciples essaient d'interpréter cette parole un peu obscure du Seigneur Jésus. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Toi, suis-moi. Et alors, le bruit court que Jean ne mourrait point. Parce que Jésus avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Jean ne mourrait point. Or, nous savons, nous avons ce privilège de savoir que Jean est mort à Patmos, vers 98, avant le retour de Jésus. Si bien que les disciples du Seigneur Jésus, les apôtres, étaient dans l'erreur. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont interprété, ce qu'ils ont cru comprendre, était erroné. Alors comment comprendre ce verset 22 ? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? A-t-il voulu dire, Jésus a-t-il voulu dire, Jean ne mourra pas ? Ou a-t-il voulu dire, mais quelle que soit la chose que je veux pour lui, ça n'est pas ton affaire. Dans un pays où on cultive les oignons, je ne sais pas si c'est par ici, on dirait que ce n'est pas tes oignons. De façon un petit peu familière. En fait, il y a un petit mot qui est tout simple. Au début de cette phrase, c'est « si ». Dans l'hypothèse où je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Jésus est en train de dire « quelle que soit la chose que je veux pour Jean, ça n'est pas tes affaires. Toi, tu me suis. Tu tournes les regards vers moi et tu marches avec moi. Un point, c'est tout. » Et le Saint-Esprit pousse Jean à écrire ces choses pour nous éclairer. En disant, verset 23, la deuxième partie du verset 23, cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. C'est vrai, il a dit quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Et le Saint-Esprit pousse Jean à écrire un petit peu plus et à dire, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et il répète textuellement la même chose que Jésus a dit. Par cela, le Saint-Esprit nous éclaire sur la manière de comprendre la parole de Dieu et nous montre qu'il faut être précis. Ce que Jésus a dit, c'est précis, c'est simple. Si on ne comprend pas, très bien, ce n'est pas grave, mais c'est précis. Et il nous montre que il est une chose excellente que d'écouter ce qui est dit, de lire attentivement ce qui est écrit, Proverbe 18, verset 13 dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Il faut écouter attentivement. D'ailleurs, c'est une des clés de l'évangélisation. Souvent, quand on rencontre des gens, on démarre une conversation avec des gens nous disent des choses. Si on est attentif aux mots qu'ils prononcent, aux choses qu'ils prononcent, on a de quoi très rapidement annoncer l'évangile. Je ne le savais pas. J'ai mis 15 ans pour m'en rendre compte. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai eu la folie de parler trop vite pendant pas mal d'années. Mais quand on écoute, on entend des choses très intéressantes qui nous donnent l'occasion de faire des ponts et d'annoncer l'évangile. Mais ici, par ce passage, le Saint-Esprit nous montre que non seulement il faut être précis, qu'il faut être très attentif, mais qu'il ne faut pas lire entre les lignes, mais simplement lire ce qui est écrit ou écouter attentivement ce qui a été dit. En d'autres termes, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Il a dit ça, il n'a pas dit autre chose. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est la deuxième règle d'interprétation qui vient de Dieu aussi, qui nous est donnée cette fois-ci par le Saint-Esprit, au travers de cet exemple. Il ne s'agit pas de nous confier à nos pensées, à nos intuitions, à nos raisonnements, nous qui sommes pécheurs, parce que nous en arrivons très facilement à penser, à raisonner des choses qui sont erronées. Et de dire, par exemple, ben, s'il a dit cela, en fait, c'est qu'il veut dire cela, et puis ça, et puis ça, et donc, et on se fait tout un film, tout un cinéma. Et ça nous arrive à chacun d'entendre une parole rapportée, d'entendre un bavardage, etc., et imaginer des choses, et tirer des conclusions, sans vérifier si notre raisonnement est juste. Et ça nous est arrivé à tous de nous retrouver dans une situation où on croyait avoir compris, au travers de notre raisonnement, de notre analyse, un certain nombre de choses, et nous rendre compte que, en fait, les choses n'étaient pas du tout comme cela. Nous sommes pécheurs, nos pensées, la chair, Satan, peuvent nous égarer très facilement. Et nous pouvons très facilement nous-mêmes faire des raisonnements qui vont au-delà de ce qui est écrit et nous égarer. Dieu ne veut pas que nous allions dans ces... que nous raisonnions d'une telle manière. En résumé, je dirais que Dieu veut que nous soyons attentifs à ce qui est écrit dans toute la parole pour pouvoir interpréter correctement sa parole, tout verset s'interprétant à la lumière du reste de la parole de Dieu. Et dans chaque verset, lire attentivement pour ne pas lire entre les lignes, pour ne pas lire entre les mots, pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, car la parole de Dieu est inspirée, elle est suffisante pour notre instruction. Mais comme je l'ai dit précédemment, et comme vous le savez, Dieu ne nous force pas à obéir. Et il est facile pour nous d'oublier ces règles et de les transgresser. Il y a beaucoup de livres qui circulent dans la chrétienté, même publiés par des éditeurs chrétiens, qui transgressent ces principes constamment. Et nous nous habituons, nous ne les voyons pas. Quand je dis cela, ce n'est pas pour pointer un doigt, c'est pour dire que nous sommes tous pécheurs, et tout ce que nous disons ou écrivons, c'est entaché. Seule la parole de Dieu est parfaite. Et alors, ainsi, beaucoup de chrétiens véritables, ou des gens qui se disent chrétiens ou qui se disaient chrétiens dans le passé, interprètent ou ont interprété la Bible comme ils le voulaient, selon leur raisonnement, selon leur intelligence, en ne réalisant pas même, parfois, qu'ils transgressent ou qu'ils transgressaient ces deux règles, en particulier, que l'on trouve en Matthieu chapitre 4 et puis en Jean chapitre 21. Alors, je voudrais vous donner, pour terminer, quelques exemples de mauvaises interprétations, d'interprétations erronées de la parole de Dieu. Je prendrai quelques exemples assez rapides. Vous pouvez parler, par exemple, du parler en langue. En 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il y a un verset qui est qui dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Beaucoup de personnes prennent la première partie du verset « Je désire que vous parliez tous en langue » comme un absolu, comme un commandement presque de Dieu qu'il faut absolument parler en langue ou chercher à parler en langue. Si on applique les règles d'interprétation que nous avons vues en Matthieu chapitre 4 et en Jean chapitre 21, en prenant compte tout le contexte de la parole de Dieu, et notamment le contexte de ce chapitre, ce même chapitre 14, au verset 19, nous dit, et il y a bien d'autres passages aussi, « Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » En fait, ici, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous dit que parler avec son intelligence, annoncer la parole de Dieu, l'expliquer clairement, c'est 2000 fois plus intéressant, 2000 fois meilleur que de parler en langue. Au verset 22, il est dit « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Lorsqu'on parle de parler en langue, la plupart du temps, c'est dans un contexte parmi les croyants. Alors qu'ici, il est clairement dit, c'est un signe pour les non-croyants. Il est très facile de prendre un passage des Écritures et de lui faire dire plein de choses sans tenir compte du contexte. Ce qui est relativement dramatique, parce que c'est transgressé. Ça n'est plus utiliser simplement sa liberté que le Seigneur nous aura donnée en nous ayant sauvés, mais c'est aussi transgresser des principes bibliques, des principes divins d'interprétation de la parole de Dieu. Un deuxième exemple assez rapide, l'on trouve dans Matthieu aussi, au chapitre 7, parole du Seigneur Jésus. Il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et ce passage est souvent utilisé pour dire « Il ne faut pas juger, frère, sœur, il ne faut pas juger. » Il ne faut pas juger. Et c'est vrai que c'est écrit, et c'est vrai que le Seigneur Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ce passage? Il faut le lire à la lumière de la parole de Dieu. Et par exemple, si vous ouvrez la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13, elle nous dit, mais maintenant, donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il avait besoin de leur rappeler un certain nombre de choses. Il leur dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, selon mon frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors, ceux qui ne sont pas sauvés? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ah, ça semble être contraire à ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7. Il dit, verset 13, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Ça paraît assez opposé à ce que Jésus a dit. Si on va au chapitre 5 et on lisait les cinq premiers versets, on verrait un petit peu un contexte un peu complémentaire qui nous éclaire. Et le verset 5 qui dit « Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Il faut donc juger. » Et il dit « Mais un frère plaide contre un frère. » Et cela devant les infidèles, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne s'ouvrez-vous pas plutôt quelque injustice? Nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul nous dit que c'est au sein de l'Église qu'il faut juger. 1 Corinthiens 11, verset 31, nous dit « Si nous ne jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et Jean 7, 24, Jean chapitre 7, verset 24, il y aurait beaucoup, beaucoup de versets que nous pourrions consulter, mais je prends juste ces quelques-uns. Jean 7, 24 nous dit, « Ne jugez pas, parole du Seigneur Jésus, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ces passages, ces différents passages, éclaire le sens, nous aide à interpréter le sens de la parole de Jésus en Matthieu chapitre 7, qui en substance dit « il ne faut pas juger ». Mais là, il nous dit « il ne faut pas juger selon l'apparence ». Et on apprend que ce n'est pas au dehors qu'il faut juger les gens, mais c'est au sein de l'Assemblée pour que dans l'Assemblée, nous marchions, nous nous exhortions les uns les autres à marcher en nouveauté de vie, une vie, dans une vie de sainteté, une vie qui honore le Seigneur. Alors, on pourrait parler de pas mal d'autres exemples. Je voudrais en prendre un dernier, qui est dans Jean aussi, au chapitre 6, verset 44. C'est un passage qui est très à la mode en ce moment, on en parle beaucoup. Beaucoup de livres mentionnent ce passage. Jean 6, verset 44 dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est un verset qui semble dire qu'il est impossible de venir à Dieu sans que Dieu décide d'attirer telle personne. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, certains raisonnent et disent « Donc si Dieu doit attirer, c'est qu'il choisit certains, c'est qu'il élit certains, c'est qu'il le fait souverainement. » Et il élit souverainement les uns et il élit souverainement les autres. Les uns au salut, les autres à l'enfer. Parce que Dieu est si souverain qu'il a élu, donc il a choisi ceux qui seront sauvés, il a choisi ceux qui seront perdus, parce qu'il est clairement écrit en Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette interprétation est essentiellement basé sur ce verset et sur un raisonnement à partir de ce verset. Mais malheureusement, ne respecte pas les règles d'interprétation, les deux règles d'interprétation que je vous ai mentionnées préalablement. Cette interprétation parle de ce qu'on pourrait appeler une élection au salut, une élection arbitraire ou une élection inconditionnelle de la part de Dieu. L'élection de ceux qui sont sauvés est sans condition, sans rien avoir à faire. Soit on est sauvé par décision de Dieu, dans le monde musulman on dirait Inch'Allah, soit on est perdu par décision de Dieu. Le salut ou la perdition sont imposés arbitrairement aux chrétiens, aux hommes. Malheureusement, ça n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que si on respecte la parole de Dieu, si on respecte les règles qui sont données, les règles d'interprétation qui sont données par Dieu lui-même, en lisant ce verset, qui peut être sujet à l'interprétation, nous allons l'interpréter à la lumière de tout le reste des Écritures. On va confronter ce verset au reste de la parole de Dieu pour vérifier si notre interprétation, celle que je viens de donner, est correcte ou non. Il y aurait beaucoup de versets qui pourraient être consultés pour confronter l'interprétation que je vous ai donnée à la Bible. Je citerai par exemple simplement dans le même évangile, au chapitre 12, le verset 32. Dans Jean chapitre 12, verset 32, le Seigneur Jésus dit: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. En Jean 3, 16, vous savez que le Seigneur Jésus dit que celui qui croit, il dit, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il parlait de quiconque. Ça concerne toutes les personnes. En 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il y a bien d'autres passages qui sont instructifs comme cela. En Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir à moi, mais qu'il vienne. Et en Matthieu chapitre 22, au verset 23, Jésus s'adressant aux Sadducéens, on voit que les Sadducéens, viennent auprès de Jésus avec des questions pièges. Ils ont choisi de venir à Jésus, mais avec des questions pièges, pour le piéger, pour essayer de l'avoir. En Jean chapitre 5, verset 40, Jésus reproche à certaines personnes, notamment parmi les religieux juifs, il leur dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il ne leur dit pas « Vous ne pouvez pas venir à moi parce que je ne vous ai pas attiré. » Il dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alors comment comprendre bibliquement ce passage qui est écrit dans les Écritures, Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » À la lumière, par exemple, de Jean chapitre 12, verset 32, quand le Seigneur Jésus dit « Quand j'aurai été levé, j'attirerai tous les hommes. » Le Père et le Fils, manifestement, selon les Écritures, attirent par la croix, quand Jésus aura été levé, attirent par la croix et la résurrection tous les hommes, interpellent tous les hommes sur la terre. La croix est encore un scandale aujourd'hui. Même les musulmans en parlent, même les bouddhistes en parlent. La croix est encore un scandale. Elle attire tous les hommes. C'est l'objet que le Seigneur Jésus et le Père utilisent pour attirer les regards de tous les hommes. En fait, c'est par les faits de la croix, par les faits de la résurrection, que Dieu attire les regards et suscite le choix dans le cœur des hommes. Et il y a un passage dans Hébreux qui nous rappelle que Jésus suscite la foi. L'œuvre de Jésus à la croix et sa résurrection le troisième jour, lorsqu'on les considère au travers des Écritures, lorsqu'on entend ces faits qui nous sont rapportés, suscite la foi en nous, ou nous conduisent librement à rejeter ces faits de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus. L'élection est clairement biblique. On voit le sujet de l'élection dans la parole de Dieu, mais elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas inconditionnelle. Elle dépasse peut-être et certainement notre compréhension, mais on découvre par la lecture de la parole de Dieu et par une interprétation avec l'ensemble de la parole de Dieu, le sens de versets comme Jean chapitre 6, verset 44, mais on le découvre que si on respecte cette règle d'interprétation. Je voudrais vous encourager à non seulement lire la parole de Dieu, mais à garder à l'esprit, dans les temps qui courent, ces deux règles, et il y en a certainement d'autres, mais ces deux règles d'interprétation de la parole de Dieu qui sont tellement importantes. Elles sont enseignées dans les instituts bibliques, elles sont enseignées dans les livres de théologie, elles sont enseignées dans les cours ici et là, dans des cours que l'on appelle des cours d'herméneutique, et elles sont très régulièrement oubliées, mises de côté, alors que nous devrions constamment avoir ces réflexes de mettre en pratique ces règles d'interprétation. Interpréter tout passage des Écritures à la lumière de toute la Bible, du reste des Écritures, en tout cas d'autres versets, et ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Cela nous permettra d'avoir du discernement pour lire tous les ouvrages chrétiens qui circulent, pour discerner si ce que l'on nous dit est vrai, est exact, est conforme aux Écritures, et cela nous protégera d'errer nous-mêmes, de nous égarer. Et si vous avez étudié un petit peu l'histoire de la chrétienté, vous avez peut-être constaté, comme moi je l'ai fait depuis 10 ans que je me plonge dans ce sujet, l'histoire de la chrétienté est remplie d'histoires tristes, de chrétiens et de gens qui se nomment chrétiens, qui se sont égarés en interprétant, et je parle de personnes connaissant la parole de Dieu, en interprétant faussement la parole. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est une tendance naturelle et c'est facile de suivre plutôt des hommes, des commentateurs, que de nous attacher à la parole seule, à respecter les règles que le Seigneur nous donne en nous soumettant à lui, en nous soumettant à la direction du Saint-Esprit. Je vous encourage de tout mon cœur à faire cela et surtout pas dire « ça ne m'arrivera pas, ça arrivera qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux autres ». Les temps de séduction sont énormes en ce moment et je crois que Satan utilise beaucoup l'intellectualisme et la lecture de beaucoup d'ouvrages pour séduire beaucoup de chrétiens qui s'attachent plus peut-être parfois à telle ou telle personne, à tel ou tel pasteur, à tel ou tel commentateur plutôt qu'à la parole de Dieu. Je vous encourage, je vous supplie de considérer ces choses avec grand sérieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.